Voilà, j'ai mentionné le prophète Joël dès le début de l'année, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de développer le message sur ce prophète, et je dirais que j'intitulerai simplement le message d'aujourd'hui « Le prophète Joël et l'Église en temps de Covid ». Avec un petit préalable sur ce prophète, une précision sur la division du livre en chapitres, certains peuvent trouver 3 chapitres à ce prophète et d'autres 4. Cela tient simplement au fait que la Bible hébraïque stoppe le chapitre 2 au verset 27 et elle fait des versets 28 à 32 un chapitre à part entière, le troisième. De ce fait, le troisième devient le quatrième dans ces versions de la Bible. Les versions récentes reprennent en général cette division en 4 chapitres, quand d'autres gardent l'ancienne, c'est le cas de la version que j'emploie ici. La prophétie de Joël part d'un fait d'actualité, une terrible invasion de sauterelles. Juste verset 4 du chapitre 1, « Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle la dévorait, ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec la dévorait, ce qu'a laissé le Gélec, le Hazil l'a dévoré. » Alors on estime généralement que ce sont 4 variétés de sauterelles qui donc se sont succédées. D'autres pensent peut-être simplement des développements différents, stades différents de développement de la même sauterelle. Peu importe, c'est une succession de ravages causés par les sauterelles. Et donc le prophète part de cette actualité pour arriver au temps de la bénédiction parfaite, à la fin de sa prophétie. En ce temps-là, le mour ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. À la fin, verset 18 de mon chapitre 3. Dans l'intervalle, il y aura eu l'appesantissement du malheur, avec une invasion ennemie d'une ampleur inégalée, l'appel à l'humiliation, le soulagement, la visitation de l'esprit et finalement la confrontation directe entre Dieu et les nations. Lisons l'appel qui est au cœur de la prophétie et qui m'a inspiré pour la pensée de l'année. Chapitre 2, versets 15 à 17. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» C'est la sainte convocation. L'assemblée de tout le peuple qui s'humilie. D'après le docteur Paul de Benoît, auteur d'un ancien commentaire sur les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas forcément les nouveaux commentaires, mais dans la bibliothèque, il y a les anciens commentaires. Alors, voilà, si je dois chercher, ben, je vais chercher un ancien commentaire. Alors, pour lui et d'autres, Joël est le second dans l'ordre chronologique de l'apparition des prophètes. De ce fait, il esquisse des thèmes qui seront développées par d'autres. En particulier, il ne présente pas encore le Messie. Mais il a saisi la nature spirituelle du salut, comme cela apparaît clairement au chapitre 2, les versets 28-29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et au verset 32, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. » C'est donc un salut spirituel, le don de l'Esprit, l'invocation du nom du Seigneur. Et pourtant, c'est une calamité naturelle qui déclenche la prophétie. À cause de la calamité, les habitants sont privés de tout. Chapitre 1, versets 10 à 12, « Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le moût est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. » Il y a donc cette calamité pour les habitants du pays, mais aussi le service du temple est affecté. Verset 9 de ce chapitre 1, « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. » Et au verset 13, « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. » Les sacrificateurs sont donc les premiers visés par l'appel à la prière. On vient de le lire ici, et au chapitre 2, verset 17, « Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Ils pâtissent bien sûr eux-mêmes du manque d'offrandes, puisqu'ils en vivent. N'oubliez pas que les sacrificateurs mangeaient des offrandes qui étaient apportées à l'Éternel. Les vieillards, qui n'ont rien connu de tel auparavant, en quelque sorte sont les seconds dans l'appel. Au chapitre 1, verset 2, nous lisons « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères ?» Et au verset 14, « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays. » Et nous les retrouvons, ces vieillards, au chapitre 2, verset 16, « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, mentionnés en premier. » Donc, les sacrificateurs, les vieillards, et puis c'est tout le peuple qui est appelé à supplier Dieu, comme nous l'avons lu donc dans ce chapitre 2. Mais avant le passage que j'ai lu, il y a au verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. » L'effet majeur de l'humiliation approuvée par le Seigneur sera la restauration du culte. Le service du temple va pouvoir reprendre avec offrandes et libations. Alors je m'arrête ici, ou je m'interromps dans le commentaire, pour venir à notre actualité. Nous venons de vivre plusieurs vagues de Covid. Calamité naturelle. Les différents assauts du virus peuvent aisément se comparer aux assauts des sauterelles. Le virus et ses variants successifs ont affecté la vie humaine. Et cela se doublera de conditions économiques déplorables qui mettront beaucoup de gens en souffrance. Les États ont dépensé beaucoup pour pallier à la fragilité des citoyens. La Terre souffre, le dérèglement climatique est bien là, des phénomènes extrêmes se profilent. La science et la technologie, en quelque sorte, seront toujours en retard pour réparer les conditions de vie. Et au plus, les choses s'accéléreront, au plus, la science et la technologie seront en retard. Et quand elles sont en avance, c'est pour faire du mal plutôt que le bien. Mais cette crise qui vient de commencer affecte aussi le culte. Les offrandes et libations peuvent disparaître dans l'Église. Matériellement, cela se vérifie en divers lieux. Et qui sait si dans un proche avenir, les pasteurs et prédicateurs pourront recevoir des offrandes suffisantes à leurs besoins. Mais surtout, l'offrande des cœurs est en souffrance. En effet, le Seigneur observe ce qui se passe avec les troubles dans les âmes et dans les relations qui viennent contrarier la simple adoration. Nous sommes dans une période où nous pouvons accumuler beaucoup de connaissances, mais nous appauvrir quant à la foi. Ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, que d'acquérir des connaissances, au contraire. Mais qu'en faisons-nous ? Seigneur, augmente-nous la foi. Cette interpellation est-elle toujours dans nos cœurs ? Et augmentons-nous notre charité à l'aune de notre connaissance ? Lors même que l'apôtre demande que ce soit notre amour qui augmente, et qui augmente d'ailleurs en connaissance. Philippiens chapitre 1, verset 9, tandis que dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, c'est seulement notre amour qui est appelé à augmenter. Nous pouvons tout savoir avec tous les médias que nous possédons. Nous pouvons tout savoir, du moins, tant que les choses sont arrivées, parce que lorsque les hommes imaginent ce qui va se passer, ça ne se passe pas comme ils pensent. Mais quand même, nous pouvons tout savoir de tous les aspects de cette pandémie, de cette maladie. Mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça produit dans nos cœurs, dans notre approche du Seigneur ? Alors que Jésus dit que, à cause de l'iniquité, dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pouvons-nous encore élever à Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, avec toutes les contradictions, toutes les disputes, toutes les interrogations qui se font jour ? Mise en cause, répondons-nous avec douceur ? N'oublions pas la raison de notre culte, les offrandes et les libations spirituelles, outre les dons matériels. Quand nous nous offrons, même pour la foi de nos frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous connaissez tous ces passages, Hébreux 13, Romains 12, mais dans Philippiens, chapitre 2, verset 17, nous avons l'approche de l'apôtre Paul. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Nous sommes au service de la foi, au service de l'amour, au service de l'espérance. Et nous adorons notre Seigneur pour sa grâce toute puissante, pour le pardon de nos péchés, pour une vie sainte et glorieuse en communion fraternelle, avec ou sans connaissance, malade ou en bonne santé, en temps de paix sanitaire ou de pandémie, dans la disette et l'abondance. Et quand viendra la guerre, cette guerre qui a déjà commencé contre les saints. L'objet de notre culte, c'est une adoration en esprit et en vérité. C'est le Seigneur qui nous permet de nous approcher de lui. Quand nous sommes même dans l'erreur, quand nous nous sommes trompés, quand nous sommes fourvoyés, il est toujours là, il nous accueille et il nous demande de nous accueillir les uns les autres. Oui, le culte, la vie spirituelle a été grandement affecté par non seulement le virus, mais tout ce qui s'est dit et fait et autour et à l'occasion de cette maladie. Je reviens au texte. À part l'allusion à l'ivrognerie, au chapitre 1, verset 5, « Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez », Joël ne liste pas les péchés du peuple. Il ne mentionne pas d'idolâtrie, d'adultère, d'exaction, etc. Ce que feront d'autres prophètes. Et pourtant, il est bien question de revenir à Dieu. Et cela de tout son cœur. Chapitre 2, verset 12, comme nous l'avons lu. Qu'est-ce à dire? Dans quel état spirituel se trouvait le peuple? Sa religion était-elle déjà devenue formelle? Les faiblesses, les abandons de ce temps-là n'étaient peut-être que les prémices de faiblesses et d'abandons à venir, beaucoup plus forts. Ces abandons plus forts justifieraient les invasions étrangères. Les calamités naturelles, sauterelles, sécheresses extrêmes, qui est mentionnée aussi, n'était-elle qu'un avertissement? La figure d'une autre invasion, guerrière cette fois-ci. La suite de la prophétie confirme cette hypothèse. Parce qu'au chapitre 2, en fait, les invasions se confondent, se superposent. L'armée de sauterelles, qui est quand même mentionnée, chapitre 2, verset 25, comme étant une armée, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hasil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Donc l'armée de sauterelles est mentionnée, mais aussi, dans le même chapitre, un peu plus haut, verset 20, l'ennemi du Nord. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Et puis, il est aussi question, verset 19, encore au-dessus, de l'opprobre parmi les nations. Donc je vous enverrai le blé, etc. Vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. À la fin de la prophétie, au chapitre 3, c'est carrément le jugement des nations qui ont dispersé Israël. Et là, il faut faire un tout petit point sur le jour de l'Éternel, qui est mentionné à plusieurs reprises. Chapitre 1, verset 15. « Ah, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Chapitre 2, verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Au verset 11, « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ?» Et enfin, chapitre 3, verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Abdias, selon le classement que j'ai déjà évoqué, est, semble-t-il, le premier prophète à avoir évoqué le jour de l'Éternel, suivi de Joël, Amos, Ésaïe, Sophonie, Zacharie et finalement Malachie. C'est dire l'importance de ce jour. Il vient d'abord sur la maison d'Israël, puis finalement sur les nations orgueilleuses. Il est dit au sujet de ce jour, chapitre 2, verset 2, « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. » Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. De façon définitive, ça ne peut pas s'arrêter. Une fois que l'aurore se répand, elle se poursuit, elle ne peut pas être arrêtée. Ce jour vient comme l'aurore. Mais parallèlement, ce jour qui est un jour de jugement, un jour terrible, est aussi le jour du Seigneur qui apparaît pour ses enfants. Au chapitre 6 du prophète Ésaïe, nous lisons versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Pour le croyant, le jugement est synonyme de grâce. La venue du Seigneur est synonyme de délivrance. Et même si Israël ici doit passer par un temps de jugement, ce sera finalement pour sa délivrance. Alors que les nations vont connaître un jugement terrible, mais dans un autre sens, ce sera aussi pour leur délivrance. La délivrance de tous à la fin. Par une calamité naturelle, Dieu a donc précédé l'offensive des nations, a donc anticipé sur l'offensive des nations. Pourquoi ? Pour que son peuple humilié puisse découvrir son vrai salut, par le don de l'Esprit. Puisque ce grand passage, qui donc forme le chapitre 3 dans certaines versions, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. Avec le soleil se changera, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Pour que le peuple passe de la vie naturelle à la vie spirituelle, pour qu'il reçoive le don de l'Esprit, il faut pour cela qu'il cherche Dieu de tout son cœur. Le prophète, celui qui annonce, se tourne lui-même vers Dieu au chapitre 1, verset 19. « C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. » Voyons que le prophète attribue même aux animaux de crier vers Dieu, c'est-à-dire qu'il voit leur détresse. Et lui-même, se trouvant dans la détresse, crie à Dieu. Il faut que le peuple supplie son Seigneur. Pourquoi ? Pour savoir célébrer un culte avec toutes les offrandes et les libations qui plaisent au Seigneur. La restauration économique, matériel, physique, permettra à nouveau les offrandes et les libations dans ce contexte. Les petits, les grands, l'homme, la femme, les enfants doivent être instruits, appelés, exhortés à se tenir ensemble devant Dieu. Et les responsables spirituels doivent être les plus ardents chercheurs de Dieu. Quand entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ?» Entre le portique et l'autel, dans le parvis, là où tout le monde peut se tenir, là où tous apportent leurs offrandes pour le sacrifice sur l'autel. C'est le lieu, l'autel, qui est visé, le lieu de la réconciliation, le lieu de la reconnaissance, le lieu de la consécration. Or, nous avons un autel, la croix du Seigneur, où il s'est offert pour nous en sacrifice et où nous trouvons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu, de lui être reconnaissants, de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Alors, tenons-nous là, à cet endroit, tous ensemble. En réalité, c'est ça l'Église, toujours et en tout temps. Ce peuple qui vient dans les parvis du Seigneur, afin de trouver la grâce, afin d'offrir sacrifice véritable et qui s'inscrit dans le sacrifice de Christ. Et à ce moment-là, l'Esprit sera répandu, qui nous donnera la joie du salut. Et Les méchants, qui ne manquent pas dans ce monde, qui nous attaqueront, qui nous persécuteront, nous trouverons toujours dans l'espérance du royaume éternel de Dieu, notre Sauveur. Je crois que nous sommes particulièrement dans ce temps où une calamité naturelle nous avertit concernant une calamité plus grande qui viendra et concernant l'offensive des nations contre le peuple saint, contre le peuple de Dieu. Mais si nous sommes dans cette disposition continuelle de venir auprès du Seigneur, de nous rassembler, de rassembler nos familles, de rassembler les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, les responsables spirituels dans le parvis pour apporter, pour venir au pied de la croix et trouver ainsi notre réconciliation avec le Père, lui donner notre reconnaissance, lui consacrer nos vies. À ce moment-là, eh bien, nous serons prêts pour le temps des jugements. Nous serons prêts pour espérer à travers l'invasion massive des méchants. Que le Seigneur vous fortifie, vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse dans les temps qui viennent. Je crois vraiment qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura des manques, qu'il y aura de la disette, qu'il y aura du chômage, toutes ces choses-là. Mais la foi, elle, sera vraiment notre vie, qu'elle soit pour vous vraiment, que votre adoration soit renouvelée, que votre cœur, votre culte soit réveillé en vous, de sorte que vous ne soyez pas surpris par la difficulté qui vient. Amen.